Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Dans une ambiance glaciale, Perfect Blue, on en a parlé, le premier film de Satoshi Kon, sorti en 97, joue des architectures urbaines à la fois étouffantes et anguleuses. On écoute un extrait de la bande-annonce.
いつも見まのやのぞいてるからね。あ、田所さん。田所さん。なかなかやるじゃない。けどね、あの見まってこう大丈夫ですかね、事務所的に。
Il y a des œuvres qui grandissent avec le temps, qui par de part un processus de maturité s'ouvre et nous donne à voir une lecture approfondie d'elle-même, mais aussi et surtout de notre environnement présent. Œuvre éminemment visionnaire sur nos mots actuels, Perfect Blue laisse également lors du premier visionnage un sentiment amer, comme si on avait manqué l'essentiel. On pourrait presque alors débuter en évoquant les théories de l'esthétisme romantique, où l'exercice critique se devait de débarrasser l'œuvre de la gangue de l'agréable pour atteindre cette partie cachée, ce noyau prosaïque qui était la teneur en vérité de l'œuvre, signant ainsi son parachèvement, sa dissolution complète dans une forme d'art absolu. Peut-être faut-il en passer par là avec le premier film de Satoshi Kon, par l'exercice critique, au risque de retomber un peu blafard, voire pataud, dans ce qu'appelait le philosophe Walter Benjamin en son temps le simple commentaire, manquant ainsi tout l'objet de la démarche initiale. Il faut dire que l'on ne fait pas ici figure de pionnier dans cette tentative de démystification. D'autres avant nous ont creusé un sillon profond. D'autres avant nous ont remarqué le caractère profondément illuminé de ce thriller inclassable qui en disait déjà long sur notre rapport à l'image et la virtualisation de nos rapports sociaux. Il est vrai qu'en 1997, à la veille de l'explosion de la bulle Internet française, Satoshi Kon, pas encore tout à fait sorti des jupes du réalisateur Katsuhiro Otomo, s'adonnait à la direction de son premier long métrage, cette fois seul aux manettes, de ce qui allait devenir une œuvre culte du cinéma d'animation japonais. Le film nous dévoile l'histoire de la jeune Mima, chef de file d'un groupe d'idols bien calibré et qui décide, sous les conseils plus ou moins avisés de son manager, de couper court à la chansonnette afin de poursuivre une carrière d'actrice. Ce qu'elle ne pressent pas immédiatement, dirons-nous, c'est la frustration générée par un tel revirement auprès de ses fans les plus dédiés. Surtout qu'une suite de morts violentes commence à se propager dans l'entourage proche de la jeune adolescente. Alors ce qui pourrait constituer ici une intrigue somme toute classique, presque éreintée du dévot ayant quelque peu perdu la raison, se transforme très vite en enjeu subtil que Satoshi Kon mène à la fois avec ses personnages, mais avant tout et surtout avec le spectateur lui-même. En effet, dès la scène d'ouverture du film, Satoshi Kon vient jouer avec nos perceptions et nos sens, si bien que l'on en vient très vite à se demander si la scène qui se déroule devant nos yeux est bien réelle, ou si l'on est en face d'une mise en scène, voire d'une chose de l'ordre du rêve, de la fantasmagorie. Voilà ici précisément l'une des thématiques principales de Perfect Blue, l'un des centres de rotation de l'œuvre, ce rapport à l'image si particulier, procurant malaise et sensations vertigineuses durant les presque 90 minutes de l'œuvre. Un nouvel élément qui pourrait venir étayer cette thèse se trouve peut-être dans les derniers dialogues de Paprika, où l'un des protagonistes nous rappelle que de la fiction naît la réalité. Peut-être sommes-nous ici en effet avec Perfect Blue dans une sorte de moment dialectique où la fiction s'en trouve dépassée pour accoucher par une négation de la négation dans ce qui constituerait une pure forme de réalité, une réalité qui tiendrait en somme de l'ordre de l'absolu. Le film va en effet pousser continuellement notre héroïne dans cette torpeur, dans ce questionnement permanent, emportant le spectateur lui aussi dans ce chamboulement du savoir sensible. L'exemple le plus représentatif constitue peut-être le tournage de la scène du viol. Tout est ici faux, simulé, nous sommes là dans un film, mais impossible de ne pas être dérangé par le caractère insoutenable de la scène, et ce malgré la distance imposée. Là encore apparaît la détresse des protagonistes, Mima elle-même ne sachant plus distinguer le vrai du faux, le moment où commence et où s'arrête le travail d'actrice, là où commence et s'arrête la réalité. Là encore, Satoshi Kon, par l'habileté de la mise en scène, plonge le spectateur lui-même dans ce chaos sensoriel, nous donnant presque l'impression d'être nous aussi complices de cette violence visuelle, notre poste de télévision n'étant qu'un énième écran face à l'horreur présente. Cette scène, bien plus brutale que n'importe quelle scène de meurtre présente dans le film, met en avant un autre élément crucial, celui de cette relation si particulière au corps. Tour à tour chanteuse sous la lumière étouffante des projecteurs, tour à tour actrice malmenée dans la moiteur sombre des décors de studio, tour à tour jeune adolescente tokyoïte perdue dans l'immensité de la mégalopole, Mima enchaîne sans broncher les figures de style avec pour seul point commun celui du procès d'un corps qui n'est plus vraiment celui de l'enfant, pas totalement celui d'une femme, mais dans le monde, c'est chargé de cette mutation accélérée. Les corps chez Satoshi Kon sont au passage souvent meurtris. L'épiderme, le moindre tissu musculaire semble comme prêt à rompre sous le moindre effort, la moindre sollicitation. Mima n'échappe pas à cette règle sournoise et ira jusqu'à constituer elle-même le réceptacle funeste d'une violence débordante sous toutes ses formes. Cette jeune fille, donnée en pâture sous tous les moniteurs de retour du studio, interroge et questionne cet acte de mort plus ou moins conscient. Le film, de par certains aspects, fait donc également écho avec une très grande justesse à des problématiques très actuelles d'exposition sur les réseaux sociaux ou plus simplement du rapport à la vie privée. Nous venons de le voir, les embranchements sont donc ici multiples et chaque approche semble déboucher sur un nouveau dédale complexe. L'on se perd alors dans des tentatives hasardeuses, d'exégèse plus ou moins réussies, repoussant inlassablement l'objet de notre quête initiale. Difficile également de résumer le film à un genre ou un propos, mais c'est peut-être mieux ainsi. Éviter une trop grande facilité, voilà peut-être le propre de l'œuvre de Satoshi Kon, dissocier l'image d'un signifié trop évident, surmonter le constat positiviste en questionnant le contenu objectif. De manière plus générale, faut-il, pour saisir l'œuvre dans son entièreté, peut-être chercher une parenté plus ou moins proche ? Walter Benjamin évoquait en ces termes la métaphore des sœurs. Il ne faudrait pas, selon lui, forcer la porte de la belle mystérieuse, mais chercher une sœur pour résoudre l'énigme. Il ne faudrait donc pas étendre le domaine d'étude à l'entièreté. Il nous faudrait étendre le domaine d'étude à l'entièreté du recueil de l'auteur pour y trouver un début de remède au mal qui nous ronge. La rétrospective proposée à la Cinémathèque de Toulouse constitue donc un outil précieux dans cette quête spirituelle. Satoshi Kon lui-même semble nous adresser une note d'espoir à la toute fin de son film, lorsque Mima, transperçant alors le quatrième mur, nous rassure et nous lance un « Je suis la vraie Mima », ultime réappropriation de son identité et peut-être pour la première fois l'assurance de se trouver dans un monde où conscience et vérité sont réconciliées, tant dans leur contenu que dans leur substance.
Merci Florent.
Et rien à voir, quoique
www.campusfm.fr